Les infos.
La Bulgarie, Rosen Zhelyazkov, a démissionné hier de son poste à la suite de bientôt un mois de manifestations de masse. En effet, des dizaines de milliers de personnes étaient présentes la veille devant le Parlement pour protester les derniers projets budgétaires de l'État bulgare. Ce dernier voulant introduire l'euro comme monnaie unique dès le début de l'année prochaine. Aux États-Unis, l'administration de Trump souhaite examiner l'entièreté de l'historique numérique de tous les visiteurs étrangers exemptés de visa. Les réseaux sociaux pourront devenir un champ obligatoire à remplir pour entrer sur le territoire américain. À cela s'ajoutent les adresses électroniques et les numéros de téléphone, utilisés au cours des 10 dernières années. La Suisse fera partie des pays concernés. Le mouvement « Je suis une sale conne » prend de l'ampleur. Suite à une vidéo de Brigitte Macron dans laquelle celle-ci disait, je cite, « S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors » à l'encontre de militantes féministes juste avant son entrée en scène aux Folies Bergères, les réactions d'indignation face à ces propos désobligeants ont fusé sur les réseaux, sous le hashtag « Je suis une sale conne ». Plusieurs personnalités publiques y ont pris part, dont Marion Cotillard, Angèle et Clara Luciani. En Suisse, deux textes du PLR ont été adoptés par le Parlement sur la politique d'asile. Le premier vise à traiter en priorité les demandes d'asile des personnes condamnées dans l'exécution des peines pour qu'ils soient fixés sur le statut dès leur libération et leur proposer une réduction de peine s'ils s'engagent à quitter le territoire à son terme. Cela permettrait, selon le PLR, de diminuer la pression sur le système et le travail administratif qui y est lié. L'autre motion visait, elle, à mettre un terme aux demandes d'asile déposées dans l'objectif de recevoir des soins médicaux. Un homme algérien de 40 ans est mort hier après plus d'un mois de soins intensifs au CHUF. Ce dernier y a été transféré dans un état grave et est pronostic vital engagé à la suite d'une détention provisoire dans la zone carcérale de l'hôtel de police de Lausanne. Les investigations sur la cause de son décès ont été confiées au détachement d'investigation spéciale policière. Un rassemblement devant l'hôtel de police est prévu pour ce soir à 6h30 afin de dénoncer les agissements de la police lausannoise, soit le traitement et les conditions de vie qu'elle imposerait aux détenus.
La météo.
Un temps nuageux sans intempéries est prévu pour ce week-end à Lausanne. La température tournera autour de 6 à 8 degrés du vendredi au dimanche avec une pointe négative à 0 degré le dernier jour. Nous vous conseillons de vous habiller chaudement. Pour ceux qui gèrent un potager, nous vous rappelons que c'est la saison de la récolte des poireaux, des choux frisés et des carottes. La lune est aujourd'hui en phase descendante et n'est visible qu'à 53%.
18h-19h, Micropolis.
Bonsoir tout le monde. Il est 18h02 à Fréquence Banane. C'est Saba qui vient de faire l'info et la météo. On a Fabio et Myriam avec nous aujourd'hui et c'est Gabriel sur la technique. Notre thème du soir, ça va être la musique. Et avec ça, je vous laisse avec le morceau Hell and Getting Worse de Rose Garden and Funeral Party.
Et du coup, pour commencer, bonsoir tout le monde. Pour commencer ce Micropolis, nous avons la chance d'accueillir une artiste, Ilia Jean, qu'on va interviewer. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien et toi?
Ça va au top. Alors, surprenamment, c'est pas la première fois que tu viens ici?
Non, effectivement, c'est la deuxième.
Okay.
Je me suis perdue, donc c'était un petit moment quand même.
Okay. Et du coup, il s'est passé quoi entre ces deux interviews?
On a regardé juste avant la date et la fois où je suis venue pour la première fois, c'était en août 2024. Donc c'est-à-dire le moment où je n'avais encore rien sorti comme chanson. Et j'avais juste mon nom de scène, Ilia Jean, du coup, qui était née, mais pas encore de chanson officiellement sortie. Et du coup, en l'espace là d'un peu plus d'un an, c'est assez big tout ce qui s'est passé. Donc j'ai sorti un EP qui s'appelle La Légende du Colibri, et on a fait un grand vernissage dans la salle du Rocking Chair à Vevey, et puis suite à ce vernissage là on a fait plein de concerts, une cinquantaine cette année, donc c'est immense en Suisse mais aussi en France, et puis ça va vite, tout plein de flash mob, on a tourné un clip aussi, enfin voilà, mm-hmm. La folie.
Et c'était quoi ton concert préféré? C'est où qu'il y a le meilleur public?
Ah, mon concert préféré, c'est une super difficile question. je pense que j'ai pas de concert préféré ou d'endroit en soi, mais j'ai des souvenirs ultra clairs, notamment de concerts où tout devant, il y avait des enfants, je sais pas, genre de 5-6 ans, qui avaient des pamirs et qui chantaient par cœur toutes les paroles. C'était vraiment tellement touchant. Et juste derrière, il y avait des ados, des adultes, des jeunes, et derrière, les moins jeunes, donc les seniors qui étaient là aussi, qui buvaient leur thé. Et de voir juste ce public intergénérationnel, je crois que c'est vraiment mon but à travers la musique et le projet que je mène. Donc je crois que c'est plus ces souvenirs-là, en fait. Et il y en a eu plusieurs, des concerts avec autant des enfants que des adultes, plus plus.
Et est-ce que quand tu as commencé la musique, tu cherchais un public, enfin tu cherchais à toucher un public particulier ?
Tous les publics, justement. Okay. Donc en fait, j'ai réussi là.
Cool.
Genre vraiment, c'était ça le but. Et ça fait tellement chaud au cœur parce que c'est allé très vite. Et je crois que j'ai toujours encore beaucoup mon âme d'enfant. Et c'est aussi pour ça que ça me touche et que j'ai besoin et envie que la musique suive et soit aussi là pour les enfants, quoi.
Mm-hmm. C'est ok, c'est trop beau. Et est-ce que, donc tu nous dis que ton but, ça a été de toucher tous les publics. Est-ce que tu as eu d'autres missions, d'autres buts quand tu as commencé la musique ? Genre, pourquoi tu as commencé la musique ?
Sur mes cartes, mon site internet, mes réseaux, l'étiquette que j'ai partout, c'est artiste suisse engagé. Du coup, je suis très engagée pour... Enfin, je suis militante aussi, mais je suis très engagée pour ce qui est justice sociale, environnementale, etc. Et à côté aussi, en tant que citoyenne suisse, je fais de la politique, je suis élue au conseil communal, donc j'essaye aussi de faire avancer les choses à mon niveau en tant que citoyenne. Mais à travers la musique, le but, c'était quand même de aussi faire ma part. D'où d'ailleurs le nom de cette EP que j'ai sorti il y a un an, en novembre 2024, qui s'appelle La Légende du Colibri. Je ne sais pas si vous connaissez La Légende du Colibri, qui est en résumé l'histoire d'un immense incendie dans une forêt, tous les animaux qui fuient les flammes, et en fait le seul animal qui tente de faire quelque chose, c'est le colibri. Il fait des allers-retours à la rivière pour essayer de poser quelques gouttes d'eau sur les flammes, et en fait il y a cette symbolique immense de faire sa part, et que plus on est de colibri, plus on a de chance quand même de réussir à éteindre, ou en tout cas en partie, les flammes. Et du coup j'ai cette étiquette là d'artiste engagé en faisant ma part à travers la musique, et du coup en mettant en avant certaines thématiques, que ce soit justement le féminisme ou les luttes sociales au sens plus large, disons, tout ce qui est environnemental et beaucoup aussi la santé mentale.
Mmh. Et est-ce que, enfin, moi dans ma vie d'étudiante, je fais de l'associatif, et il n'y a pas longtemps j'avais cette réflexion de, en fait ça me frustre parce que j'ai l'impression de rien faire. Je fais toujours plein de petits trucs, mais j'ai l'impression que ça n'a pas d'impact sur le monde. Et est-ce que toi tu penses que faire ta petite part avec ta musique, t'arrives à je sais pas si c'est clair, mais à toucher, est-ce que t'arrives à avoir la sensation de faire avancer quelque chose?
Clairement.
Avec ce que tu fais.
300%. Ouais. Ah oui, je suis hyper convaincue de ça. Et je pense que, de toute façon, à une personne, on ne peut pas sauver le monde. Mais justement, le fait de s'assembler et de se rendre compte de tout ce que les autres font déjà ou pourraient faire en plus, ça booste et ça donne plein d'énergie. Et je suis assez convaincue que depuis la sortie de mon projet, j'ai appris cette histoire, ou en tout cas amener ce concept de légende du colibri, dans le sens où on peut faire notre part même à notre échelle, même si on a l'impression que c'est pas assez grand ou que c'est un peu insignifiant ou on a ce sentiment d'impuissance. Malgré tout, on fait notre part, et en fait c'est le principal, quoi. Donc ouais, à fond. Donc okay. Je t'encourage à te dire ça.
Merci. Tu disais juste avant que tu parlais aussi de santé mentale sur ta page Instagram. Tu dis que tu fais de tes cicatrices tes chansons. Ça veut dire quoi, cette formulation?
Ouais. Je pense que comme tout être humain, on a beaucoup de cicatrices qui sont pas visibles. Moi j'en ai aussi qui sont visibles, et en fait j'ai mis des années à en être fière et à me dire que si elles sont là et que je suis toujours vivante, c'est qu'elles sont simplement la preuve que j'ai survécu aux choses par lesquelles je suis passée, même si c'est des moments difficiles. Mais en fait, je suis toujours là, et du coup, c'est une fierté. Et donc, grâce à ces cicatrices et à ce vécu-là, j'arrive à en faire finalement quelque chose de beau. Je suis assez convaincue que de prendre ces tourbillons, des fois ce mal-être, pour moi c'était beaucoup aussi d'éco-anxiété, c'est toujours, mais j'arrive à en fait prendre ce tourbillon et mettre cette énergie pour en faire quelque chose qui sert du coup moi psychologiquement pour juste ma personne, mais qui servira aussi plus loin. Et quand je parlais du public intergénérationnel, c'est aussi réussi parce que en fait ça ouvre des dialogues, ça ouvre des discussions, et au niveau de la santé mentale, c'est important de rappeler à toutes les générations, mais notamment je pense aux jeunes qui sont dans une souffrance assez intense ces temps, que ben, les cicatrices, c'est OK, qu'on vit avec, que c'est même une bonne chose. Et puis de réussir à en parler et à briser certains tabous, ça fait du bien.
OK, trop bien. Et du coup, je me disais aussi, donc tu essayes de faire des actions politiques et... Enfin, on sait que bah, sur Terre, c'est jamais tout blanc, tout noir. Est-ce que tu dois des fois faire des compromis? Surtout que enfin, t'es dans l'industrie de la musique, donc c'est aussi une industrie qui est pas forcément très...
Oui, alors de toute façon, il faut faire des compromis. Et dans tous les cas, à partir du moment où tu vis, ben voilà, tu utilises des choses, tu pollues, enfin, juste t'existes en fait. Mm-hmm. Mais... Enfin, vu qu'on est là et qu'on existe, autant l'utiliser dans le bon sens. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Donc, effectivement, ben oui, faire par exemple un concert, ça, on utilise de l'électricité beaucoup pour les lumières, pour la musique, pour le son, pour enfin tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, je suis de nouveau convaincue que cet impact-là a vraiment un chemin positif finalement. Et il y a toujours le revers de la médaille, mais c'est vrai que de toute façon, on peut rien faire parfait. Donc autant faire du mieux qu'on peut.
C'est un très beau mantra. Est-ce que tu fais d'autres instruments?
Je fais un peu de piano, mais un peu, je vais pas dire que je suis pianiste. Une époque en vrai, oui, mais j'ai besoin du piano pour composer en soi. Donc c'est assez cool de me débrouiller et de connaître le solfège. Ça me saoule d'en faire, mais avec ce que je connais, on peut écrire des chansons, donc c'est pratique. Et puis à une époque, j'arrivais vite fait à faire 2-3 trucs à la guitare, mais en fait j'ai dû faire des choix. Et à la base, je suis formée en comédie musicale, donc c'est vrai que là aussi j'ai dû faire des choix, parce que bah, en comédie musicale, tu fais un peu tout. Donc j'ai un diplôme de chanteuse, de danseuse, je fais des claquettes, voilà, aussi comédienne. Donc finalement, il y a énormément d'arts différents. Et donc là, en lançant mon projet solo, vraiment de compositrice en tant que Izia Jean, ben, la chose principale, c'est effectivement le chant, mais je garde beaucoup de danse quand même. Dans mon clip, on danse beaucoup. Sur scène, il y a des chorés. Sur scène, j'ai pas que des musiciens qui m'accompagnent, mais il y a aussi des choristes et des danseuses. Du coup, on a aussi cet aspect-là de la danse. Et puis un jour, je ferai une chanson où je m'accompagne au piano sur scène et ce sera stylé. Et peut-être on pourra dire que je suis pianiste, mais voilà.
Et ben on attend ce jour.
Moi, je me demandais, c'est quoi ton processus créatif? Quand tu crées tes morceaux, quand tu fais tes paroles, enfin tout ce qui est autour de ta création, quelle est un peu ta méthode? Qu'est-ce que tu fais?
Première chose, j'écris tout le temps. Donc tous les jours, j'écris. Et ça veut dire que grâce à ces écrits-là, j'ai des refs, j'ai des phrases, j'ai des réserves un peu de mots ou de, juste de ressentis en fait. Et puis du coup, tout part de là, j'ai l'impression. À la base, j'écris aussi juste pour ma santé mentale, je pense. À la fin de chaque jour, j'écris un peu une liste des petites choses qui m'ont fait du bien pendant la journée ou de mes petites victoires, que ce soit les trucs vraiment nuls aux autres victoires immenses. Et puis ensuite, à partir de là, ben, j'écris que ce soit des histoires ou bien j'écris en lien de choses que j'ai vécues, quoi. Et il m'arrive du coup aussi d'avoir des journées entières dédiées à la créa plus musicale. Mais de nouveau, je suis pas une musicienne de zinzin, mais je m'en sors. Donc en fait, je teste des trucs au piano, je teste des mélodies, j'enregistre des trucs et petit à petit, j'arrive à coller un peu les deux ensemble. Et j'ai de la chance d'être hyper bien entourée parce que j'ai une équipe de musiciens géniaux et il y a aussi que ce soit des compositeurs, producteurs, etc. autour de moi avec qui je collabore. Et donc c'est vrai que j'ai souvent les idées de base, le message principal ou un refrain qui est catchy, qui fonctionne, et après je le mets, voilà, j'assemble tout ça avec d'autres gens, parce que c'est important d'avoir plein de couleurs aussi pour arriver à la fin de ce processus.
Et c'est qui, du coup, tu dis que t'es entourée de plein de monde, est-ce que tu peux nous parler de ta ou tes plus belles rencontres dans le milieu de la musique?
Je pense que les plus belles rencontres, c'est aussi celles que j'ai gardées, dans le sens où celle qui m'accompagne encore maintenant et que j'ai rencontrée dans des endroits un peu improbables ou dans des réunions ou des trucs de réseautage où il y a vraiment 1000 gens et tu t'assieds par hasard à côté d'une personne et en fait tu te rends compte que c'était pas par hasard. Donc je pense que le noyau vraiment c'est l'équipe avec qui on est sur scène et ça c'est assez fou parce qu'on est vraiment des potes quoi. Tout le monde est pro, tout le monde vient d'univers un peu différent quand même. Et puis, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, mais un des deux batteurs qui nous accompagne, qui est sur scène avec moi, je l'ai rencontré parce qu'on a fait une audition ensemble pour un big projet. Lui a été pris et pas moi, mais juste on s'est échangé nos contacts. Et genre, une année après, j'étais là, salut, en fait, c'était vraiment stylé ce que tu avais fait à ton audition. Et du coup, c'est ultra improbable parce qu'il était là, ok, cool, et c'est pas du tout le genre de musique qu'il fait de base. Et maintenant, il nous accompagne. Et on se fait des trips. Là, on était parti jouer à Paris et on mettait tous les instruments dans le TGV. On devait cadenasser le piano parce que, bref, on avait oublié de réserver des places pour les instruments. Enfin, c'était un peu un scandale, mais genre, on part vraiment d'un truc où on s'est croisé une fois un peu comme ça. Ouais. Et finalement, on vit à 8 dans une chambre Airbnb pourrie à Paris. Enfin, c'est trop drôle. Franchement, je crois que c'est ces rencontres-là qui animent aussi et puis qui font qu'on arrive à créer des choses stylées et qui font du bien, quoi.
Et c'est quoi ton plus beau souvenir en lien avec la musique?
Tu dis de juste là, cette année, ou bien en général?
Ce qui t'a le plus marqué.
Ok. Je dirais là, la première chose qui me vient quand même, c'est le vernissage du coup de l'EP. Parce que le Rocking Chair en soi, c'est quand même une grande salle, et du coup, fallait oser se dire, ok, on réserve le Rocking Chair et on essaye de remplir. Ben, on a rempli. Et c'était fou, parce qu'en fait, il y avait une artiste qui a fait la première partie. C'est une artiste fribourgeoise que j'adore qui s'appelle Faustine. Et elle a fait la première partie. Il y a eu aussi un pote danseur d'exception qui s'appelle Esteban Flores, qui a d'ailleurs chorégraphié ma chanson Proud by Wolf, enfin le clip et tout. C'est lui en partie qui a chorégraphié. Et il est venu faire une danse. Je suis ultra fan de Michael Jackson au niveau artistique, c'est vraiment ma référence. Et lui, il danse Michael, mais... c'est vraiment, je l'admire trop. Et il est venu faire un show de Michael même avant. La salle était pleine, on a projeté le clip sur le grand écran. Et après ce moment en fait où il s'est passé tout ça, et le moment où juste tes musiciens rentrent sur scène, ils commencent à jouer. D'ailleurs, on rentrait avec Crayon de couleur, une chanson dont on parlera après, je pense. Et vraiment ce moment où juste j'ai respiré une dernière fois, je me suis dit ok, je rentre. Et là, c'était vraiment le lancement de quelque chose, le début d'un chapitre, et un chapitre trop cool. Donc je pense que ça, c'est mon souvenir, en tout cas, le plus fort émotionnellement. Okay. En plus, je voyais quand même un peu les premiers rangs. Il y avait tous mes potes, ma famille, enfin vraiment, les gens qui sont là aussi depuis des années, dans les petits concerts tout pourris. Bah, ça faisait plaisir qu'ils soient là.
Et est-ce qu'il y a 5-10 ans, tu te voyais là où t'es aujourd'hui?
Pas exactement, je pense. Mais et puis, je suis même pas sûre que je me voyais vraiment. Je pense que c'était plutôt... un peu un rêve, et puis tu sais le nombre de gens qui te disent que de toute façon c'est pas un métier, qu'en Suisse t'es pas reconnu, ce qui est vrai, entre parenthèses, mais que tu galères, que t'auras pas de thunes, que de toute façon personne va t'accompagner, enfin bref. Bah, en fait du coup tu vois ça comme tes tripes qui ont des images et un but en soi, mais il y a un peu ta tête qui bloque, donc je suis pas sûre que je me voyais vraiment, mais la réalité c'est que je m'imaginais tellement que finalement ça se passe, parce que tant qu'on s'imagine et puis qu'on y croit, il y a un bout, ça fonctionne. Donc je crois que oui et non, mais je suis contente que oui quand même un peu.
Bah alors c'est quand qu'il y a eu le déclic où tu t'es dit bon, j'arrête d'écouter ma tête, j'écoute mon cœur?
C'était il y a 5 ans où je devais rentrer à l'Uni ici en sport. Et c'était super, j'avais envie de faire prof de sport. En vrai c'est un métier que j'adore, enseignante. Parce que je fais beaucoup de remplacements dans les écoles, donc j'aime ce métier. Et au dernier moment, j'ai un peu fait en fait, si je vais maintenant à l'Uni, jamais je ferai autre chose. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu quelque chose qui allait me coincer pendant un certain nombre d'années. Et donc, j'ai un peu paniqué et donc j'ai lâché complètement cette inscription quelques mois avant. Et donc, j'ai fait un peu vite fait des auditions dans des écoles de musique où j'ai été prise à aucune parce que j'étais trop impliquée émotionnellement dans ce que je faisais. Je tiens à quand même poser cette phrase, voilà. voilà, et du coup, j'ai été prise dans une seule école, donc c'est celle que j'ai faite, c'est celle de comédie musicale à Genève. Okay. Et donc là, c'était vraiment le choix de me dire, ok, en fait, je vais faire ça de ma vie. Trop bizarre, parce que en plus, la comédie musicale, bah oui, c'est quelque chose de ouf, mais il n'y a pas de place de comédie musicale. Enfin, bref, mais du coup, j'ai quand même fait ça, donc là, ça a été le big choix, je pense. Donc ouais, il y a 5 ans.
Est-ce que tu as des regrets ou quelque chose que tu aurais voulu faire différemment?
Pas du tout. Okay. Vraiment pas, et même je suis contente d'avoir vécu hyper fort parce qu'émotionnellement c'était dur d'avoir autant de noms. Et aussi quand j'ai fini ma formation de comédie musicale, donc il y a maintenant 2-3 ans, ben naïvement je me disais que j'allais avoir des places, que j'allais pouvoir faire de la comédie musicale, que ça allait être super. Et la réalité, c'est qu'il n'y a pas de place, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience. Donc voilà. Donc en fait, je suis même contente d'avoir eu toutes ces portes fermées, parce que ça m'a permis d'en créer une, et c'est celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et du coup, pour rien au monde, je changerais ça, je crois. Même que c'est dur, que je galère financièrement, qu'on n'est pas reconnu, ça c'est vrai. Enfin, ce que les gens ils disaient, en vrai, ils n'avaient pas tout tort. Mais la réalité, c'est que c'est ce que j'avais besoin, je crois. Donc je suis contente.
Ben c'est trop chouette. Comment tu fais face aux critiques, du coup? Enfin, du coup, j'imagine que tu as dû faire face à des critiques à un moment donné.
Oui, tout le temps, en vrai. À partir du moment où tu es présent sur les réseaux, ou même si tu dis des trucs un peu différents de ce que tout le monde dit, de toute façon, il y aura ça.
Et du coup, comment tu y fais face? Comment tu...
Je crois que maintenant, ça me coule dessus, honnêtement.
Okay.
En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où tu dis quelque chose, de toute façon, il y aura des gens qui vont juger. Première chose, parce que c'est humain de juger, donc bon, voilà. Et deuxième chose, de toute façon, il y aura des gens qui seront pas d'accord. Donc, si on fait et on façonne notre vie en fonction de ce que les gens veulent, dans tous les cas, ça va pas marcher. Parce qu'il y a des gens qui seront pas d'accord dans tous les cas. Donc, j'étais juste en mode, bon, bah, moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie de dire ça. Je sais que ce que je vais faire, ça va servir à quelque chose aussi pour les autres. Et ça a toujours été mon but. En mode, même si je devais mourir shooté par une voiture demain, bah au moins j'aurais fait ça. Enfin, genre, et du coup, je crois que maintenant ça me coule un peu dessus. Mmh. Après, ce qui est plus hard, c'est en tant que femme, quand tu montes un projet comme ça toute seule, et qu'en plus ça marche quand même assez bien, bah ça pique quoi. Et les gens ils kiffent pas encore tous que en tant que femme t'arrives à faire un truc, en plus t'es jeune, et puis je suis écolo et féministe à l'aide. Enfin, donc voilà, donc c'est plutôt ça qui me touche encore un peu, franchement, de temps en temps. Mais gentiment, ça me fait plus sourire parce que je suis un peu désolée pour eux, quoi. Enfin, je me dis, purée, s'ils sont encore coincés là, ça me fait presque un peu pitié. Et en même temps, c'est un peu saoulant parce qu'il y en a quand même certains qui tiennent les rênes de beaucoup de choses. Donc voilà, mais c'est pour ça que ça fait sens de continuer.
Je comprends. J'avais une question en tête, je l'ai plus en tête. Oui, si. Du coup, il y a quelques jours, t'as sorti une nouvelle chanson. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Ouais, c'était du coup vendredi passé. Ouais, donc il y a quelques jours, une chanson qui s'appelle Crayon de couleur. C'est du coup la seule sortie de cette année. J'avais peut-être prévu, envisagé d'en faire plus. Et en fait, 50 concerts plus 1000 autres projets. Voilà, elle arrive en décembre, c'est pas grave, elle est arrivée. Et en fait, elle tombe très bien à cette période de l'année parce que Crayon de couleur, le but premier de cette chanson, c'est de se rappeler que même si il fait nuit, il fait noir, que c'est dur et il fait froid, dans tous les sens du terme, il reste des crayons de couleur et il reste de quoi remettre des couleurs dans n'importe quelle situation, même quand on a l'impression que pas. Et en fait, cette chanson, c'est basé sur une histoire que j'ai vécue où moi-même j'amenais des crayons de couleur. C'était il y a pile 10 ans d'ailleurs, donc on fête aussi cet anniversaire un peu à travers cette chanson, où ma meilleure amie de l'époque était hospitalisée suite à dépression, aussi tentative de suicide, etc. Et en fait, bah, j'étais la seule personne qui allait la voir à l'hôpital, j'avais 15 ans. Et en fait, bah, à 15 ans, tu sais pas trop comment gérer une situation comme ça. Et en fait, mes refs et ce sur quoi j'arrivais à m'appuyer, c'était qu'est-ce que je peux lui amener qui lui fasse du bien, même les 30 minutes où on est ensemble. Et donc, c'était du chocolat, des biscuits Ovomaltine, plus précisément. c'était de la musique. Donc, je lui amenais une radio et j'avais gravé un CD. Et littéralement, on écoutait le CD dans la radio. Et je lui amenais des crayons de couleur. Et puis, justement, je lui disais ça, que même si c'était tout nuit, tout brouillard et que ça allait pas, ben que juste le temps, au moins, on était ensemble, on pouvait faire du coloriage. Et ce qui est assez beau, c'est qu'aujourd'hui, elle est toujours là. Et c'est toujours ma meilleure pote. Et elle est au premier rang pendant mes concerts. Et elle m'accompagne beaucoup. Et là, on a pu aussi la chanter ensemble, cette chanson, à la sortie. Donc c'est hyper beau de voir le chemin. Et même en une semaine, j'ai déjà eu des retours de gens qui m'ont dit qu'ils avaient besoin d'écouter ça maintenant. Et du coup, bah, voilà, la part de Colibri, elle est faite, quoi.
Je suis contente. Du coup, on va bientôt l'écouter. On arrive gentiment vers cette fin de l'interview. J'ai un pote qui compte beaucoup pour moi, qui aime poser des questions existentielles. Et du coup, je vais t'en poser une
trop cool
pour cette fin d'interview. Pour toi, en combien de temps on va loin?
On y est déjà, si tu penses que tu y es déjà. Je pense.
Ok, trop bien. Quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Toujours dans la même veine, un peu des questions un peu qui s'éloignent. je me demande... Quelle est la question à laquelle t'as toujours voulu répondre en interview, mais que pour l'instant encore personne ne t'a posée?
J'adore, parce qu'on m'a déjà posé cette question.
Ah bon?
Et du coup, je vais devoir trouver une deuxième réponse. Et ça, waouh! du coup, je sais pas. Je sais pas, je pense que j'ai quand même cette tendance à être, en tout cas sur les réseaux ou en général, et même c'est, je pense, la majeure partie de ma vie, à être ultra tournée vers le positif, ultra souriante. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui osent me poser des questions de concrètement, t'as peur de quoi ? Ou je sais pas, genre une angoisse nulle, ce serait quoi ? Et en vrai, à part mes potes très proches, c'est pas des choses dont on parle parce que soit si c'est des gros sujets, de toute façon je vais en parler, parce que voilà. Mais sinon, ces petits trucs du quotidien qui piquent, tu sais. Donc je pense que ce serait ça.
Est-ce que tu veux répondre à la question maintenant ?
Trop cool, je me pose des questions à moi-même, je suis fan. En vrai, ouais, ok. Mais bon, je vais essayer de faire une réponse courte. Allez, promis. Non, je pense que les petits trucs qui piquent, et vraiment, si je dois choisir une chose, c'est plutôt ma peur et mon incompréhension face à certaines réactions humaines. Parce que j'ai tellement essayé de comprendre comment on réagit, de comprendre comment une émotion se crée, et de voir où ça peut mener et comment surtout on peut les utiliser pour faire quelque chose de beau, même quand c'est des émotions qui pèsent, genre la colère ou la peur ou la tristesse. Et du coup, je crois que ouais, ce qui moi me pèse, c'est cette espèce d'incompréhension de la plupart des gens qui ne vivent pas vraiment. Et je crois que c'est un espèce de stress constant quand je croise des gens, mais même juste dans le métro, tu sais, je sais pas, et je suis là genre, pourquoi cette personne me paraît vide, enfin me paraît hyper loin et bloquée, comme si il y avait les émotions dans un petit coffre très très loin dans le ventre avec 8 ans de cadenas, et jamais ils vont aller l'ouvrir à moins que quelque chose leur pète à la figure et que du coup ils seront obligés. Donc je pense que ça doit être ça, ouais.
C'est
voilà.
Très beau ce que tu dis. Est-ce que t'as un mot pour la fin ?
Merci.
Merci à toi d'être venue, on est ravis de t'avoir
avec
eu
plaisir.
Sur le plateau. Et du coup, on va écouter... pardon.
Peut-être juste une dernière question pour finir l'interview. Comment est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce que tu as des projets ? Tu nous parlais de partir aux États-Unis bientôt. Est-ce que tu as des projets qui s'annoncent, des trucs où on peut te suivre pour plus tard ?
Bah, partout, vous pouvez me suivre avec mon nom d'artiste, donc Iziagine, I-Z-I-A-J-E-E-N. J'ai un site internet, du coup, iziagine.com. Sur Insta, TikTok et tout, c'est pareil, le même nom, vous allez trouver. Et si vous voyez une personne habillée tout de rose, en général, c'est moi. Donc voilà. Et ouais, il y a plein de projets fous qui arrivent. Je pars effectivement à Los Angeles dans 3 semaines pour un immense forum international sous forme de concours où je représente la Suisse via une agence parisienne. C'est un peu zinzin de dire ça comme ça, mais c'est assez stylé, c'est trop cool. Et j'enregistre des nouvelles chansons aussi là-bas avec une production américaine. Et ensuite, il y a plein de folies pour 2026 qui sont pas encore toutes agencées, donc je vais pas tout spoiler, mais c'est fou. Et du coup, ouais, vous pouvez suivre sur toutes les plateformes Iziagine.
Trop bien,
trop bien, on
merci.
Fera ça. Et du coup, on va écouter ta dernière chanson, Crayon de couleur.
Ok, et c'est de retour avec moi après ce très bel interview. Et je vais vous parler de comment la technologie a changé la musique. La musique est la première langue commune entre tous les humains, en étant universelle et en étant capable de transcender les barrières linguistiques. Les humains ont donc besoin de musique pour survivre, et cette dernière est omniprésente dans notre quotidien. Moi par exemple, j'ai joué au piano, j'écoute de la musique en bossant, et même mon sujet de grand oral portait sur la musique. Plus précisément, la chanson parfaite existe-t-elle ? Mais on est aussi entouré par la technologie, je me permets même de dire « envahi ». Et donc, comment ces deux entités se mêlent, et en particulier, comment la musique s'est adaptée aux avancements technologiques ? C'est avant tout l'Internet qui a véritablement bouleversé l'industrie musicale, en transformant la consommation de musique. On est parti de CD, chars et radio, vers MP3, et ensuite avec l'Internet, vers des vitesses de connexion croissantes, un partage de fichiers plus aisé, et même un accès plus facile mais pas très légal avec les programmes qui permettaient de pirater la musique. Et on ne peut pas parler d'Internet et musique sans parler de comment les réseaux sociaux ont influencé ce quatrième art majeur. Et je parle notamment de sites comme MySpace et YouTube. Et le moyen le plus répandu pour écouter de la musique aujourd'hui, les services de streaming comme Spotify. Tous ces outils n'ont pas seulement facilité la consommation de nos chansons préférées, mais aussi ont ouvert beaucoup de portes pour les artistes derrière les mélodies les plus proches de nos cœurs. Et c'est simplement parce que l'Internet a libéré la création de la musique de la dimension physique. Les artistes n'ont plus besoin de passer par l'intermédiaire de studios, labels, etc. pour lancer leur carrière. Il s'agit simplement de créer un son le monter sur une application et ensuite le publier sur un des milliers de plateformes qui existent et attendre à ce que toute personne de n'importe quel coin du monde le retrouve. Et cette existence de la musique sur l'internet a mené à ce qui est inévitable aujourd'hui, la relation entre musique et intelligence artificielle, et qui est décrite par plusieurs angles. Utilisation de l'IA dans la création musicale. Je commence par lancer quelques chiffres intéressants. En 2028, le marché de l'IA générative en matière de musique va atteindre plus de 3 milliards de dollars. Et selon SACEM, 35% des créateurs ont déjà utilisé l'IA générative dans leur travail. Et quand on parle de l'utilisation de l'IA dans la création musicale, on parle notamment de la composition assistée par IA à travers des logiciels comme Aiva ou Boomy qui analysent des milliers de morceaux et en décomposent les sons pour extraire les éléments constitutifs, mélodie, harmonie, rythme, etc. Et c'est avec cette analyse poussée que l'IA est capable de proposer des compositions originales dans une multitude de styles musicaux. Certains artistes utilisent aussi l'IA dans leur processus créatif, et d'autres lors de la production musicale. Ceci est illustré par des mixages assistés par l'IA, par exemple Isotope Neutron, qui utilise des algorithmes avancés pour analyser automatiquement les pistes audio et suggère ensuite des réglages. L'intelligence artificielle est aussi un outil d'optimisation des fichiers audio pour une production musicale de haute qualité. Enfin, il faut mentionner les algorithmes des plateformes de streaming musical comme Spotify ou Deezer, qui exploitent les outils de IA pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur. Il s'agit d'algorithmes particuliers qui analysent les chansons, podcasts, artistes écoutés par l'utilisateur et étudient plus précisément combien de fois il a répété une chanson, le fait qu'il écoute l'album de X chanteur plus que celui de Y chanteur, et enfin qui prennent toutes ces données en considération pour créer des playlists personnalisées, proposer à l'utilisateur certains genres musicaux et le diriger vers d'autres artistes cohérents avec son goût et simplement les statistiques. Cette collaboration entre musique et technologie soutient fortement les artistes en leur offrant des moyens qui réduisent le processus artistique, mais aussi le temps dédié à l'optimisation de la production, organisation de tournées, etc. Et ensuite qui leur permettent de se concentrer sur d'autres aspects de leur art. Mais est-ce que cette collaboration ne démunit pas la musique de son aspect humain? Est-ce qu'une musique générée par l'IA reste-t-elle vraiment une musique? Ce n'est qu'un seul des problèmes qui sont nés dans le gré de cette union, en particulier la question de droits d'auteur. En effet, l'émergence de la musique générée par l'IA soulève des questions complexes en matière de propriété intellectuelle et de droits d'auteur. Le cadre juridique actuel, conçu pour protéger les créations humaines, peine à s'adapter à cette nouvelle réalité. Il faut aussi parler d'autres acteurs de l'industrie musicale et leurs relations à l'IA. Des labels musicaux qui se servent d'outils pour décrypter et comprendre les algorithmes des plateformes d'écoute dans le but de développer la carrière des artistes qu'ils représentent, aux majeurs du disque qui investissent dans l'IA pour optimiser leur processus de découverte de talents, de production et de marketing. Cette relation crée des vedettes qui chantent les mélodies les plus populaires et dont le succès est anticipé et non plus celles qui les passionnent. Enfin, vers où se dirige cette collaboration entre musique et technologie? Pour l'instant, l'horizon est assez flou, mais on peut imaginer qu'on va témoigner bientôt une ère d'assistants virtuels qui accompagnent les artistes vers les pics de leur carrière, et on peut même s'attendre à des artistes eux-mêmes artificiels, créés par des labels et des studios, des naissances fondées sur des stratégies de marketing et une envie de rentabiliser. On n'est pas aussi loin d'intenses progrès dans le domaine de la création de compositions par les algorithmes, non seulement cohérentes, mais aussi émotionnellement engageantes. Pour conclure, l'industrie musicale est une industrie définie par son adaptation aux évolutions technologiques. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, l'accès à nos chansons préférées se limitait à l'achat de CD et de disques vinyl. Et cette évolution était aussi frappante que l'arrivée du streaming, et tout comme cette nouvelle transition vers la musique nuancée par l'IA qui nous choque aujourd'hui. Mais il faut savoir que dans quelques années, ou peut-être dans quelques jours, le son qui jouera en boucle dans vos têtes va probablement être créé par une IA. Mais pour l'instant, les chansons que vous écoutez sur Fréquence Banane ne sont pas le produit de l'intelligence artificielle, et je laisse alors avec la preuve, Dracula de Tame Impala. Et du coup, c'était Dracula de Tame Impala, et maintenant on vous laisse avec Saba pour une chronique.
Merci. Avant toute chose, j'aimerais commencer par une question. C'est quoi la musique? Pour vous, dites-moi vraiment, c'est quoi la musique?
C'est un... Ok, waouh.
Ok.
Question pas facile, finalement. Ouais.
C'est quand tu mets deux notes côte à côte.
Ouais, okay. Je dirais un ensemble de notes.
C'est une manière de voir la vie et de ressentir ce qu'on ressent et d'exprimer ce qu'on ressent.
J'aime.
Autre que par seulement des mots ou des gestes.
J'aime beaucoup cette réponse, mais c'est les deux autres qui m'arrangent.
Comme vous le dites,
c'est un amas de sons et de notes qui nous sont agréables à l'écoute. Parmi eux, il y a la pop, le rock, le jazz, le rap, la musique électronique, etc. Bref, tout ce qu'on désigne communément comme étant de la musique. Mais quelles en sont les limites? Est-ce que le chant des oiseaux peut être considéré comme de la musique? Qu'en est-il de la pluie qui s'abat sur le sol et de tous les autres bruits qui nous entourent? En somme, quelles sont les limites de la musique? Ça, c'était un court extrait de Beyond par Ijo Kaidan, un groupe de noise, un genre qui explore justement ces fameuses limites de la musique. Je précise de suite que je ne vais pas vous faire toute l'histoire de ce genre depuis ses origines du mouvement futuriste italien des années 1920 avec Luigi Russolo et le dadaïsme de Berlin, ni l'évolution du found sound de 1931, avec Edgar Varese et John Cage qui donnera la musique concrète, etc. Tout simplement parce que c'est pas tant lié que ça à la noise actuelle, donc la noise contemporaine, et en plus, ça me prendrait une éternité. De toute manière, si vous voulez vraiment en apprendre plus, il y a des tas de personnes sur internet qui en parlent, et qui en parlent surtout mieux que moi. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est avant tout la nature transgressive de ce mouvement, qui souhaite explorer les horizons du son que la musique mondaine a complètement mis au ban pour les uns et créer une sorte d'anti-musique pour les autres. C'est pour ça que je vais me contenter de n'aborder que brièvement la naissance du noise contemporain qui puise ses racines dans la musique industrielle des années 70. Alors, la musique industrielle émerge aux alentours de 1970 avec la démocratisation des synthés et des pédales analogiques. Elle incorpore du bruit, au sens de bruit, genre dans ses musiques, formant ainsi une sorte d'amalgame étrange de sonorités tantôt harmonieuses et tantôt dissonantes au possible. C'est à ce moment que des petits malins se sont saisis à pleines dents de ce milieu en ne conservant que sa dimension bruitiste, et créant ainsi la noise music telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc l'extrait que vous avez entendu juste avant. En Allemagne, aux USA et surtout au Japon, des jeunes vont s'adonner avec passion à l'exploration de cette dimension du son, redoublant d'efforts et de créativité dans la conception de leur œuvre, entre des collages de bruit électronique, des hurlements qui saturent le mix de façon totalement imprévisible et des effets dans tous les sens. Ces gens textes ont fait du bruit un véritable mouvement. Mais en réalité, ce n'est pas juste la noise music. C'est la noise et l'ensemble de ses sous-catégories. Et c'est ça que je trouve le plus fou. C'est qu'il existe au sein de la noise, donc du bruit, des sous-genres. Donc notez l'exploit, on a quand même réussi à catégoriser du bruit. Power électronique, harsh noise, harsh noise wall, power noise, dark ambient, death industriel et j'en passe, parce que j'ai pas envie de m'étaler en longue description. Mais en gros, c'est quand même hyper diversifié dans un genre qui est du bruit. Et en plus, ce qui est pour moi le plus fascinant, c'est de voir la créativité dont certains peuvent faire preuve. Donc certains de ces artistes, j'ai vu des gens faire couler de l'eau à l'intérieur du corps d'un micro en mode pommeau de douche pendant qu'il enregistrait, ce qui donne un bruit qui est absolument terrifiant. D'autres se baladaient dehors avec une sorte de petit casque audio pour accrocher des espèces de petits micros aimantés sur n'importe quel support métallique avant de taper dessus pour faire du bruit. Et à chaque fois, c'est des gens qui explorent, qui essayent de trouver des bruits qui font des trucs un peu dégueux et qui sont hyper intéressants. Il y a aussi un concept que je trouve super cool, c'est ce qu'on appelle les noise box. En gros, tu vas récupérer plein de petites pièces de métal dans une déchetterie, des aimants, des ressorts, des clous, enfin n'importe quoi, puis tu vas les fixer sur une boîte en métal dans laquelle tu auras préalablement placé un micro. Lui-même relié à un ampli et quelques pédales d'effets supplémentaires. Ça donne du coup une noise box que tu peux marteler, secouer et gratter dans tous les sens, avec à côté une série de potards et de boutons pour encore plus déformer le signal audio. Et là, vous allez me demander, mais qui écoute ce genre de truc? Pourquoi? Enfin, qui peut bien vouloir entendre des trucs littéralement faits pour être désagréables? Ce qui est une question qui est complètement compréhensible. Mais du coup, j'ai à titre personnel déjà eu l'occasion d'en écouter. Et j'ai même une petite playlist, c'est pour dire. Alors voici ce que j'en pense. Pour moi, c'est un type d'art qu'il faut aborder avec un angle bien précis, celui de l'expérience. C'est une sorte de flagellation audio qu'on s'inflige volontairement. Et ça a surtout deux effets. De un, c'est tellement hard que je trouve que ça a une portée cathartique. Genre après la session d'écoute, une fois que je retire mes écouteurs, j'ai l'impression que tout est hyper paisible, comme si toute cette hyper-violence m'avait débarrassé d'une partie de mes émotions négatives, ou juste parce que je retrouve le calme après m'être fait agresser les oreilles. En ce qui concerne mon second point, je trouve que le noise est incroyable pour la concentration. Ça s'applique peut-être que à moi, mais en gros ça m'empêche de divaguer ou de réfléchir à autre chose que ce que je dois faire sur l'instant T. Dites-vous, l'autre jour j'étais à la BCU, qui comme vous le savez en ce moment est extrêmement bruyante à cause des travaux, et qu'on soit clair, je ne supporte pas ce bruit, je suis incapable de me concentrer avec ce bruit de fond dégueu derrière, enfin les gros travaux qui font des bruits bas, etc, enfin je peux pas. Alors j'ai branché mes écouteurs, et j'ai lancé une playlist noise. C'était pendant que j'écrivais justement cette chronique. Et j'ai littéralement mis du bruit dans mes oreilles pour éviter d'être dérangé par le bruit des travaux. Et zéro van, bah ça a fonctionné. Donc ce que j'ai à dire, c'est juste que vous puissiez vous en rappeler. La prochaine fois qu'un bébé pleure dans le train et que vous n'arrivez plus à lire votre livre, écoutez du harsh noise. Sur ce bon conseil, je vais vous laisser avec, je vous rassure, pas du noise, mais un morceau de Megadeth, notre chanson punk sur les supermarchés.
Et maintenant, c'est à Fabio pour sa chronique.
Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire voyager un peu dans le temps. On va plonger dans un univers où la musique déborde d'énergie, de cuivre étincelant et de rythme irrésistible. Celui du Big Band, le grand orchestre de jazz. Imaginez, Une vingtaine de musiciens et de musiciennes sur scène, saxophone, trompette, trombone et une section rythmique qui balance. Batterie, contrebasse, piano, guitare. Tout ce beau monde uni pour faire danser la salle. Le Big Band, c'est un peu le jazz à grande échelle. À la base, le jazz, c'est une musique d'improvisation, souvent jouée par des petits groupes influencés par le blues, le gospel et les work songs, surtout à la Nouvelle-Orléans. Vous connaissez peut-être le nom de Louis Armstrong, trompettiste et chanteur à la voix légendaire. Mais dans les années 30, aux États-Unis, une nouvelle forme émerge. Le jazz orchestré, arrangé pour de grands ensembles. Et là, le son devient massif, puissant, presque contagieux. C'est l'époque du swing, celle des grandes salles de danse, des jupes qui tournent et des pas de Lindy Hop. À la radio, à la télé, dans les clubs, on ne parle que de ça. Des noms comme Duke Ellington, Count Basie, Ella Fitzgerald, Benny Goodman ou Glenn Miller deviennent des stars. Glenn Miller, par exemple, a fait vibrer toute une génération, avec des titres mythiques comme In the Mood ou Moonlight Serenade, des morceaux qui restent gravés dans la mémoire collective. Mais ce qui est fascinant, c'est que derrière la virtuosité et les solos éclatants, le Big Band repose sur une organisation millimétrée. Chaque note est écrite, chaque section, cuivre, hanche, rythmique a son rôle précis. Pourtant, dans ce cadre très structuré, l'esprit du jazz, l'improvisation, reste bien présent. Le ou la soliste prend le relais, s'envole, puis revient dans le collectif. À partir d'une simple grille d'accords et d'un peu de créativité s'ouvre un nouveau monde. Les morceaux sont réinterprétés, réinventés à chaque concert. C'est jamais deux fois la même version et c'est justement ça la magie du jazz. C'est un dialogue permanent entre la rigueur et la liberté, entre la partition et la créativité. Le Big Band, c'est aussi un phénomène social et culturel. Pendant la Grande Dépression, les Américains avaient besoin d'évasion, et le swing offrait justement ça. Une musique joyeuse, dansante, fédératrice. Pour beaucoup, c'était une manière d'oublier la crise, de retrouver le sourire ne serait-ce que le temps d'une chanson. Et puis, il ne faut pas oublier le rôle de Big Band dans la lutte pour les droits civiques. Des chefs d'orchestre comme Duke Ellington ou Count Basie ont ouvert la voie à une reconnaissance des musiciens noirs sur la scène internationale, à une époque où la ségrégation était encore omniprésente. Ellington en particulier a montré que le jazz pouvait être une musique sérieuse, sophistiquée, digne des grandes salles de concert. Son Big Band était reconnu pour sa virtuosité, ses pièces étaient prisées, l'élevant au rang d'un véritable compositeur de musique savante, au même titre que les grands de la musique classique. Avec des œuvres comme Moulin-Digo ou It Don't Mean a Thing, il a prouvé que le jazz pouvait être à la fois populaire et profond, festif et poétique. Son orchestre, c'était un peu comme un laboratoire vivant. Chaque musicien avait une personnalité unique, et Ellington savait en tirer le meilleur pour créer un son incomparable, un son Ellington reconnaissable dès la première note. Aujourd'hui, le Big Band n'est certes plus aussi présent sur les ondes qu'à l'époque, mais continue d'influencer énormément de styles. La soul, le funk et même certains courants du hip-hop et de la pop utilisent encore ces orchestrations massives et ce groove inimitable. Des artistes comme Michael Bublé ou encore les orchestres de jazz contemporains font revivre cet esprit avec une touche moderne. Même ici, à l'EPFL, le jazz en fait encore rêver plus d'un. Le campus a plusieurs groupes actifs, dont son propre Big Band, qui sera d'ailleurs en concert mardi prochain, pour les chalets de l'EPFL à midi. Donc si jamais vous commencez à déprimer sous ce temps de décembre ou que vous voulez rentrer un peu plus dans l'ambiance de Noël, n'hésitez pas à venir les écouter. Laissez-vous embarquer, fermez les yeux, imaginez les projecteurs, les musiciens en costume, les danseurs qui tourbillonnent, et surtout le swing qui pulse, irrésistible. Parce que le Big Band, c'est ça avant tout. Une célébration du collectif, du rythme et de la joie de jouer ensemble. Et dans un monde où tout va vite, c'est peut-être une belle leçon à retenir. Prendre le temps de s'accorder, de s'écouter et de swinger ensemble. Et pour continuer sur cette lancée, je vous laisse avec Sweet Georgia Brown, chantée par la fabuleuse Ella Fitzgerald.
Merci Fabio pour ce morceau et maintenant je vous laisse avec Myriam.
Merci Maria, on était dans le doux, maintenant on va passer dans le boum boum. Alors j'ai l'habitude de staffer les festivals étudiantins depuis environ un an maintenant. À l'origine ma DA c'est plus tout ce qui est site sécu, du coup les jaquets, les vaubans, les surflex, les parvisus, tous les trucs gris là qui vous empêchent d'aller d'un côté ou d'un autre du festival, ça me connaît. Mais pour Sismic, donc un festival étudiantin qu'on a sur le campus de l'EPFL qui a eu lieu il y a à peu près un mois, j'ai fait de la technique de scène avec Fréquence Banane. La technique de scène c'est en gros ce qu'il y a entre le public et les gens sur scène, c'est en gros ceux qui, avec qui, enfin grâce à qui vous voyez et vous entendez ce concert et du coup vous kiffez, voilà. Et donc il y a un... C'était une expérience qui était très différente mais très enrichissante, j'ai adoré ça. Et deux jours avant, donc c'était un vendredi soir, et deux jours avant, donc le mercredi, on installe tout le système son avec plein de trucs très stylés, mais faut pas me lancer dessus sinon on est lâche qu'à demain. Et après 3 heures de test, on arrive enfin à crash du son dans les alentours de 23h. On teste des chansons random, et puis un pote avec qui je staffais avait l'air excessivement heureux d'entendre une de ses chansons préférées avec ses enceintes très performantes. Vous noterez que j'utilise le mot « excessivement » déjà dans un but particulier, et ensuite en pesant mes mots. La question qui m'est alors venue, c'est « Mais pourquoi est-ce qu'il est si content d'entendre cette chanson avec ce système son particulièrement, alors qu'il l'entend tous les jours avec ses écouteurs ?» Eh bien justement parce que c'est pas la même chose, et aujourd'hui je voulais vous présenter les 5 différences qui font que l'expérience vécue devant une grosse boîte noire est meilleure que celle avec les petits bidules blancs dans les oreilles. La première chose à noter, c'est la spatialisation, c'est-à-dire que le son ne prend pas la même place. Dans tes écouteurs, le son il va directement dans tes oreilles, tandis qu'avec des enceintes, le son envahit l'espace autour de toi, ce qui donne une dimension plus naturelle, plus multidimensionnelle à ce que t'entends. L'isolation n'est donc pas la même. Dans tes écouteurs, t'es dans un autre monde, une bulle à toi, alors qu'avec des enceintes, le son fait partie du monde autour de toi, des bruits qui t'environnent. Une autre différence à noter, c'est que tu vas alors percevoir physiquement le son de manière différente. Et pour me justifier, je vais m'éterniser un petit moment sur la science que j'ai appris cette semaine de montage et les semaines d'après. Donc sur scène, on va avoir différents types d'enceintes. Et un genre qu'on peut séparer, c'est... Enfin, comment on peut trier les enceintes, c'est en fonction de des fréquences qui vont sortir. Et donc on va avoir deux types. Ici, on va citer à peu près 3 types. Les subs, les tops, et puis le truc entre les subs et les tops, mais j'ai plus leur nom. Les subs, c'est souvent ce qui est placé en dessous de la scène ou alors bien devant, et en gros c'est ce qui va émettre toutes les basses fréquences. Et le reste, c'est ce qui est sur scène, et ça va émettre tout le reste. Donc les tops, les hautes fréquences, et puis le truc entre les subs et les tops, ça fait un peu des deux. Du coup, les subs vont notamment faire vibrer ton torse. Donc le matos qu'on utilise sur scène pour écouter du son, il est designé pour faire pour faire vibrer certaines parties de ton corps, contrairement à tes écouteurs. Écouter de la musique avec des enceintes, c'est donc donner une dimension physique avec ton écoute. À ton écoute, ton corps, il vit la musique, contrairement à avec des écouteurs. Un autre avantage de l'écoute avec un système audio externe est le fait que le son est moins proche directement des oreilles, donc ça fait que ça fatigue moins vite les oreilles que des écouteurs. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, juste la vibe. Écouter de la musique avec des enceintes, c'est partager le son avec d'autres personnes. C'est quelque chose de collectif, même quand t'es seul dans ta chambre, parce que de toute façon tu fais chier tes voisins, donc ça reste collectif. Donc oui, c'est mieux d'écouter de la musique avec un super système son externe, mais à part si vous écoutez Fréquence Banane avec de super chouettes enceintes, je vais malheureusement vous imposer No Rival d'Exode dans vos écouteurs.
Et on arrive malheureusement à la fin de notre dernier Micropolis, mais je vous rappelle que c'est pas notre dernière émission. Vous pouvez nous retrouver le jeudi prochain pour notre dernier Café Kawa. Merci Gabriel pour la technique et merci tout le monde pour vos chroniques aujourd'hui. Elles étaient incroyables sur la musique.
Merci à toi d'avoir animé cette super émission.
Merci à l'équipe.
Et je vous laisse avec Myriam juste pour parler un peu du chalet d'avant de Fréquence Banane demain soir.
Ouais. Déjà, on dit beaucoup, enfin, un grand merci à Isiadjin d'avoir accepté de passer et d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et du coup, un infocampus au mauvais moment, mais ce demain soir, donc vendredi soir, de 18 à 22, c'est Fréquence Banane qui est au chalet de l'Avent, donc entre le CM et le CE, donc avenue Picard, à Écublanc. Et en gros, on va vous servir du vin chaud, il y aura un petit DJ set pour commencer la soirée, et après un karaoké, ça va être fun, ça va être chouette, c'est Noël, venez, ça va être cool. Wally wallou. Merci à tous pour cette émission.
Merci à toi.
Pour ce semestre qu'on a grave kiffé.
Oui. C'était incroyable. Merci les gars.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Et du coup, c'est gentiment la fin
oui.
De notre dernier Micropolis.
Jingle de Micropolis.
Notre dernier jingle. Un mot de la fin. Un truc de nostalgique à dire. Un truc qui passe bien à la radio. Quelqu'un a un truc à dire.
Banane.
Banane. Oh, oui. C'est le mot de la fin. Banane.
C'était les blas bananes.
Oui.
C'était les blas bananes, effectivement.
Allez, bonne soirée tout le monde.
Fréquence Banane, les infos.